France Culture.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Il sera effectivement question ce soir de la riposte iranienne au lendemain de la mort du chef suprême Ali Khamenei. Nous serons aussi au Liban où le Hezbollah promet de réagir et puis en France, dans les rues de Paris où la communauté iranienne est divisée, vous le verrez. Donald Trump assure que 48 dirigeants iraniens ont été tués jusqu'ici. Washington fait aussi état ce soir de 3 soldats américains tués dans le cadre de l'opération contre l'Iran. 5 autres seraient blessés. Au lendemain donc de la mort du guide suprême Ali Khamenei, la République islamique met ses menaces à exécution et envoie des missiles dans toute la région. Dans la capitale iranienne, les habitants sont donc terrés chez eux. Les explications de Siavosh Ghazi, correspondant de RFI pour France Culture à Téhéran.
Téhéran ressemble à une ville morte après les frappes très intenses de l'aviation israélienne contre plusieurs quartiers du centre de la capitale ce matin. Il n'y a plus de circulation automobile dans la capitale. Tous les magasins sont fermés. Les gens sont terrés chez eux. Et donc, c'est une ville morte avec la présence de nombreuses forces de sécurité et de police sur les principales avenues et les grandes places de la capitale. Beaucoup d'habitants pensent désormais à quitter la capitale pour se mettre à l'abri.
Qu'en est-il de la riposte de l'Iran ?
Alors, les autorités iraniennes ont dit qu'ils allaient aussi intensifier et accélérer les attaques contre Israël, mais aussi contre les bases américaines dans la région. Pour la première fois, l'aviation iranienne est entrée en action en bombardant des bases américaines au Kurdistan irakien, mais aussi dans plusieurs monarchies arabes du Golfe Persique. Ali Larijani, qui dirige le Conseil suprême de la sécurité nationale, a même envoyé un message aux pays arabes du Golfe Persique en affirmant qu'ils avaient promis à l'Iran qu'ils ne n'autoriserait pas l'utilisation de leur territoire et de leur espace aérien pour que les États-Unis attaquent l'Iran à partir de ces pays-là et qu'ils n'avaient pas tenu leurs promesses, c'est ce qui expliquait donc l'attaque menée par l'Iran contre les bases américaines dans la région, mais aussi donc d'autres cibles, par exemple aux Émirats Arabes Unis ou dans d'autres monarchies arabes du Golfe Persique.
Siavosh Ghazi, correspondant de RFI pour France Culture, interrogé il y a quelques minutes par Olivier Vogel. D'un côté, l'Iran riposte et le Hezbollah libanais, qui avait d'abord adopté une posture de retenue, affirme désormais qu'il fera face à l'agression israélo-américaine. Au Moyen-Orient, toujours, l'intensité des frappes israéliennes sur l'Iran va s'amplifier, promet ce soir Benjamin Netanyahou. Au moins 9 personnes sont mortes dans le centre de l'État hébreu après des frappes de missiles iraniens. Ça s'est passé à Beth Shemesh. Agathe Mamé, bonsoir.
Bonsoir.
Les secours s'activent encore dans les décombres.
Oui, au milieu des gravats, juste derrière une rue balise et toujours éclairée par un grand projecteur, le missile iranien est venu détruire en effet ce bloc de béton, un abri public souterrain dans lequel les habitants s'étaient réfugiés en tout début d'après-midi au son des alertes, et 9 personnes y ont perdu la vie dans l'effondrement du bâtiment. C'est l'une des plus lourdes frappes mortelles depuis des mois en Israël. Noam, qui a 16 ans, raconte être intervenu tout à l'heure, une demi-heure seulement après la frappe. Il dit avoir vu de ses yeux des enfants gravement blessés. Alors il a tenté d'aider avec un de ses amis. Il a épaulé une vieille dame également touchée à la jambe. Et ils l'ont transporté ensemble jusqu'au service de soins. Une vingtaine de blessés ont été évacués déjà, des dizaines de secouristes s'activent encore, donc avec l'espoir de dégager d'autres personnes. La police, ce soir, parle de 11 personnes manquant à l'appel. Un drame en tout cas qui pose question, alors que ces abris en Israël sont vus globalement comme une protection fiable, régulière en tout cas face aux missiles iraniens. Mais personne ici parmi les habitants avec qui nous avons échangé, et malgré ce qui s'est passé donc à Beth Shemesh, personne ne remet en question ce soir la décision israélo-américaine de frapper l'Iran.
Merci Agathe Mahué. Je rappelle que vous étiez en direct de Beth Shemesh en Israël avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Les tensions dans la région qui secouent aussi le détroit d'Ormuz. 2 navires ont été attaqués. L'un des tirs est revendiqué par l'armée américaine. C'est via ce détroit que transite quelques 20% de la consommation mondiale de pétrole. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, la Russie et 6 autres membres de l'OPEP ont décidé d'augmenter leur quota de production de pétrole de plus de 200 000 barils barils par jour pour le mois d'avril, ce qui pourrait compenser un éventuel manque d'approvisionnement en plein embrasement régional. Car l'Iran multiplie ses représailles à l'encontre de plusieurs pays du Golfe. Face à cette escalade, les États du Golfe ont d'ailleurs annoncé qu'ils se réuniraient afin d'apporter une réponse unifiée aux attaques iraniennes. Aux Émirats arabes unis notamment, 3 personnes sont mortes et 58 ont été blessées selon le ministère de la Défense. Les 3 sont de nationalité pakistanaise, népalais et bangladaise. Et la base navale française a aussi été touchée, Frédéric Saïs.
Oui, au moins 2 drones kamikazes ont touché la base française Al Salam à Abu Dhabi. Sur plusieurs vidéos que nous avons pu authentifier, l'on voit un nuage de fumée noire, puis un nouvel impact.
Wow.
Attaque de drones iraniens confirmée par le ministère émirien de la Défense. Elle a provoqué un incendie dans 2 conteneurs de matériel, mais il n'y a pas eu de victimes, toujours selon le gouvernement des Émirats. Pas encore de confirmation côté français. Cette base navale française est ouverte depuis 2009. Elle accueille des navires de guerre et de renseignement en vertu d'un accord de défense entre les Émirats arabes unis et la France. Elle est située à seulement quelques centaines de mètres du Louvre à Abu Dhabi, sur l'autre rive. Il y a quelques minutes, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a dénoncé les attaques massives et injustifiables de l'Iran, sans évoquer précisément la base française d'Abu Dhabi. Un conseil de défense doit être réuni à 19h autour d'Emmanuel Macron.
Édouard Barrouet, vous nous rejoignez. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à la rédaction de France Culture, dans ce conseil de défense, donc, il sera justement question de cette situation, mais aussi des ressortissants français au Moyen-Orient.
Oui, Emmanuel Macron doit faire le point sur la situation militaire au Moyen-Orient. Il sera entouré du chef d'état-major des armées, mais aussi de Sébastien Lecornu et des principaux ministres concernés. Ils devront répondre à des questions centrales. Comment se positionne la France dans ce conflit? Et quelle réponse doit-elle apporter aux attaques américaines, israéliennes, mais aussi à ces frappes iraniennes? Car au lendemain de la mort d'Ali Khamenei, les missiles continuent de pleuvoir dans toute la région du Golfe Persique. Le président français demande depuis hier un retour du travail diplomatique, mais sa voix reste inaudible. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qualifie cet après-midi ces attaques iraniennes de massives et injustifiées. Les pays du Golfe sont entraînés dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie, dénonce-t-il sur X. Autre priorité, selon la porte-parole du gouvernement, la sécurité des ressortissants français sur place. Il en sera question ce soir. Le gouvernement souhaite débuter les évacuations dès que la situation le permettra. Demain, Emmanuel Macron est attendu à Brest pour un discours qui risque de résonner avec l'actualité. Il doit parler dissuasion nucléaire française et sécurité du continent européen.
Merci Édouard Barrouet. Ce sont les voix franco-iraniennes qui s'élèvent aussi ce soir depuis Paris. Merci Anisic. Je me tourne vers vous. Bonsoir.
Bonsoir.
Plusieurs rassemblements ont eu lieu cet après-midi, l'un à République, l'autre à Bastille. Alors si la communauté est soulagée par la disparition du guide suprême, elle reste très divisée sur l'avenir.
Alors à la Bastille, des drapeaux américains, israéliens et celui de la monarchie iranienne ont été brandis. Des partisans du fils du chat déchu se sont rassemblés sur place. Ils soutiennent l'intervention israélo-américaine en Iran. Une iranienne âgée d'une 60aine d'années pense qu'il fallait en venir aux frappes.
On remercie d'ailleurs à Trump et Benjamin Netanyahou pour faire ça. On n'attendait que ça. Depuis le jour que Trump nous avait promis ça, mais on disait pourquoi il retarde, parce qu'ils sont en train de faire des pendaisons des jeunes. Tous les jours, il attrape les gens, il les pend, il les tue. Bah, il faut qu'il frappe. De toute façon, il y a des gens qui vont partir pour libérer notre pays.
Autre ambiance, place de la République, plusieurs centaines de personnes protestent ici contre les frappes. Des frappes qui bafouent le droit international selon les manifestants. Moussa, un franco-iranien de 40 ans, tient une pancarte sur laquelle il a écrit « Iran libre » tout en dessinant Ali Khamenei avec une couronne.
Ça veut dire nous sommes contre le dictateur du Shah et aussi contre le dictateur des Mollahs. Et il y a aussi Pahlavi et un autre Khamenei. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il n'y a aucune base pour la monarchie en Iran.
C'est venu dire qu'il ne veut pas être ce souverain imposé par des puissances étrangères.
Si Khamenei se tue, ça suffit pour nous. C'est fini. Le reste, le peuple iranien, il peut faire. Mais sans intervention étrangère.
comme Moussa, ils sont nombreux, Héloïse, à craindre la guerre civile en Iran.
Merci Anezic, journaliste à la rédaction de France Culture. Un mot de l'actualité en France. Le Rassemblement National retire son investiture à Adrien Nave, tête de liste aux élections municipales à Dunkerque, en raison de la présence sur sa liste du porte-parole du mouvement royaliste de l'Action française. Toujours au sujet des municipales, la chef des écologistes Marine Tondelier prévient des conditions seront imposées au soir du premier tour avant d'envisager tout accord de second tour avec la France insoumise. Et puis le Salon international de l'agriculture ferme ses portes ce soir. Un salon pas comme les autres, reconnaît son président. L'édition 2026 a été marquée par l'absence des bovins et une fréquentation en baisse. Selon les derniers chiffres disponibles, le nombre de visiteurs affichait un recul de l'ordre de 25% pour les 4 premiers jours. Quelques nuages demain sur la Méditerranée et le centre. Dans le nord et l'est, le soleil brille et les températures redescendent. Il fait 3 degrés à Bourges, 5 à Rouen, 7 à Bordeaux. Demain matin, c'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Caroline Beneteau, Nicolas Leroulé était à la technique. Et tout de suite, c'est l'heure de Soft Power avec vous, Frédéric Martel, où vous continuez d'évoquer l'Iran pendant une heure.
Absolument, merci Héloïse. Suite de cette émission spéciale, on a un peu bouleversé notre grille, nos programmes Soft Power ce soir. Avec, dans une première partie jusqu'à 19h, on va continuer à parler de l'Iran.
The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests.
Operation Epic Fury a pour but justement de démanteler des capacités de missiles qui menacent les alliés, de lutter contre des agents du régime iranien, des milices, et de veiller à ce que le régime iranien ne puisse plus menacer le monde par la menace du nucléaire.
در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند.
Nous devons multiplier les initiatives pour que la question se règle par la voie diplomatique, car nul ne peut penser que la question du nucléaire iranien, de l'activité balistique, des déstabilisations régionales se régleront simplement par les frappes. Et évidemment aussi les droits légitimes du peuple iranien à se faire entendre, ce qu'il a exprimé ces derniers mois encore en étant terriblement réprimé.
When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
Vous aurez reconnu à l'instant Donald Trump, Emmanuel Macron, et entre eux, Mike Waltz, l'ambassadeur des États-Unis au Conseil de sécurité, représentant donc des États-Unis, et ainsi que le présentateur officiel de la télévision iranienne. C'était cette nuit, en sanglots, annonçant donc la mort de l'ayatollah Khamenei. Accélération de l'histoire, donc, ce week-end, après l'annonce des bombardements américains et israéliens en Iran, hier samedi. C'était à 8h du matin, hier matin. Et la mort dès le début de ces opérations du guide suprême Ali Khamenei. Donc, l'émission Soft Power modifie donc son sommaire ce soir avec une première partie entièrement dédiée à l'Iran. Nous serons avec Bernard Ourcade, spécialiste de l'Iran, dans un instant. Isabelle Lasserre du Figaro sur la dimension géopolitique de ce nouveau conflit. Et en plateau avec nous, en direct, Jean-Claude Voisin qui connaît l'Iran comme sa poche. Grand focus sur l'Iran dans un instant en ouverture de cette émission.
France Culture. Soft Power. Frédéric Martel.
Voilà, dans le reste de l'actualité, plus brièvement, nous reviendrons un peu plus tard, à partir de 18h50-55, sur la nomination de Catherine Pégard au ministère de la Culture, en remplacement de Rachida Dati, dont on fera également un rapide bilan. Pas de box-office ce soir, pas non plus d'autres actualités, en raison de cette actualité très dense sur l'Iran. Et à partir de 19h, on reprendra notre émission comme prévu, avec deux invités ce soir dans le programme de Soft Power, Laure de la Roudière, vers 19h15-19h20, la présidente de l'ARCEP, le gendarme des télécoms, comme on dit, est mon invité ce soir. Bonsoir madame, merci. Bonsoir. D'être avec nous. Et puis Félicité Herzog, présidente de la librairie L'écume des pages, dont elle vient de démissionner. Elle est aussi la créatrice de Badabook. Bonsoir Félicité.
Bonsoir Frédéric Martin.
À mes côtés, deux chroniqueurs également ce soir. Catherine Boulay, journaliste, chef de rubrique Média à la lettre, et Emmanuel Paquette. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Voilà, pour le sommaire de cette émission, un peu chamboulée ce dimanche. Jean-Claude Voisin, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir au pied levé accepté mon invitation ce soir. Vous êtes historien et archéologue français. On vous connaît moins que d'autres spécialistes de l'Iran parce que d'abord, vous y vivez très régulièrement. Vous y avez été directeur de l'Institut français. Et puis, comme ça arrive parfois, vous y êtes marié. Vous vivez avec une Iranienne, désormais française. Et vous retournez très régulièrement en Iran. Vous y étiez encore au tout début de l'année.
Le 7 janvier.
Juste avant les massacres des 8 et 9 janvier. Juste avant donc, ces violentes répressions qui ont fait des dizaines de milliers de morts. J'aimerais commencer peut-être par une question hors actualité. On viendra à l'actualité tout à l'heure. Comment cette société, aujourd'hui évidemment, sans dessus-dessous du fait de ces bombardements et sans doute qui cherche son avenir, comment est-elle construite d'un point de vue de sa diversité, véritable mosaïque finalement?
C'est vrai, et je pense que c'est fondamental quand on parle de l'Iran, j'entends parler de la société iranienne, mais comme dans chaque pays, ce sont des sociétés. Et l'Iran, qui est 3 fois la France, 4 fois l'Allemagne, c'est déjà une mosaïque culturelle avec des peuplements qui ont des langues différentes, qui ont des pratiques culturelles, des gastronomies différentes dans tous les coins, les Kurdes, les Azéris, les Baloutches. Mais on reviendra peut-être là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que la société iranienne, il y a la société de la ville, la société urbaine, qui représente à peu près aujourd'hui 80% de la société iranienne, et la société rurale. Et donc déjà, ces deux-là, comme dans tous les pays du monde, elles ne sont pas unies. Et on va revenir sur des détails. Premièrement, il y a une population religieuse, traditionnaliste, qui est minoritaire, qui représente peut-être 20%, avec des personnes très sincères, j'allais dire, d'autres fanatiques, et une troisième catégorie...
Plus opportuniste.
Alors, c'est la troisième catégorie. Les fanatiques, c'est une chose, mais il y a les opportunistes, c'est la troisième catégorie, qui, eux, profitent des largesses du système et donc jouent la carte de la croyance religieuse.
Des mots-là, pour les vides.
Voilà. Ça, c'est une part de la société, 20% à peu près. Et puis, il y a le gros de la société. Et c'est, je pense, l'Occident, cette société, les 80% là, ils parlent à l'Occident, parce que c'est une société qui s'ouvre à l'Occident, avec, là aussi, des disparités selon les classes d'âge. C'est une société de classe moyenne et supérieure, éduquée, la plupart sont passés par les universités, et cette société, elle a aujourd'hui, au moins en commun, quels que soient les âges, j'allais dire, la haine de la religion. C'est une société...
Donc très laïque, enfin, même si le mot est laïque. Très séculaire, pour le dire, séculière,
voilà,
pardon.
Qui s'éloigne de la religion. Vous savez que les mosquées, dans les grandes villes, sont vides le vendredi, contrairement à d'autres pays musulmans. Et cette société, elle va se diviser en deux groupes. Ceux qui ont plus de 35 ans et les moins de 35 ans. Les plus de 35 ans, donc, ce qu'ils veulent, c'est un pouvoir laïque. Et la liberté de choisir sa religion, ou pas. Que ça soit, j'ajoute, parce que ça va vous choquer, que ça soit démocratique ou pas. Je pense que ce n'est pas leur problème, parce qu'ils ont toujours été habitués...
Se débarrasser de la religion.
Historiquement parlant,
en tout cas,
il y a toujours eu des pouvoirs forts. Donc, se débarrasser de la religion...
Au pouvoir.
Et pouvoir, voilà, vivre comme on l'entend dans la vie quotidienne.
Bon. Et les moins de 35 ans?
Et puis alors, les moins de 35 ans, ils sont branchés sur les réseaux sociaux. Ils vivent dans leur tête à l'occidental, comme nos enfants en Occident. Alors, surtout, leur modèle, ce sont les USA. Et ces jeunes, ce qu'ils veulent, c'est une liberté totale. Dans tous les cas de figure, s'habiller comme on veut, même de façon provocante ou pas sur le trottoir. Voilà. Mais donc, je dis bien, la force que je sens, moi, dans les 80% qu'on voit sortir dans la rue, se faire réprimander et tuer, comme ça s'est passé au mois de janvier, ils ont en commun, tous ces gens-là, quel que soit leur âge quand ils sont sur le trottoir, c'est pas de religion, plus de religion, parce que, évidemment, moi j'ai vécu ça en tant qu'enfant du Jura rural dans les années 50, où on a vu le fossé entre les...
Qui se créait peu à peu. Mais si on reprend vos catégories, donc il y a les croyants, sincères ou pas, vous dites, la population occidentalisée, plus ou moins 35 ans, avec un rejet de la religion, puis il y a aussi des minorités très nombreuses, très importantes, qu'on connaît mal, qui ont donc sans doute d'autres agendas.
Alors, c'est une question, évidemment, d'ethnologue, j'allais dire. Moi, je vois bien le problème des Kurdes, le problème des... Alors, les Kurdes au sud-ouest, les Baloutches au sud-est, côté Pakistan, ce sont des gens, alors déjà de religion sunnite, alors que l'Iran est chiite. Mais c'est pas là le problème. Je pense qu'il y a une coexistence avec un respect de règles qui font nation. Et ces gens-là, aujourd'hui, ce qu'ils demandent, et ils sont souvent les premiers récalcitrants, ce qu'ils demandent, c'est la reconnaissance de leur identité culturelle. Ça, c'est fondamental. Et je ne sais pas...
Avec même des velléités d'aller plus loin.
Alors, c'est là, est-ce qu'ils iront s'il y a un chaos avec un chamboulement complet de régime et un changement de régime, est-ce qu'ils voudront une autonomie ou une indépendance? Moi, je ne peux pas répondre.
Sur les autres, d'une très courte, très, très rapidement, sur les autres minorités?
Oui, alors, je parlais des Kurdes parce que ce sont les plus organisés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des contingents qui sont en train de se former pour la résistance, pour l'après, j'allais dire, qui se forment en Irak avec leurs compatriotes, puisque le monde kurde, c'est une part de la Syrie, une partie
de la Turquie, de l'Irak
et de l'Iran. L'Ouest iranien a de grandes proportions de peuplement kurde. Donc, ces gens-là, ce sont les plus, j'allais dire, les mieux organisés, les plus récalcitrants au dogme et à l'idéologie imposée par Téhéran.
Avec nous par téléphone, l'un de nos meilleurs spécialistes de l'Iran, Bernard Ourkad. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez dirigé l'Institut français de recherche en Iran de 1978 à 1993, donc une très longue période. Vous avez également publié plusieurs livres sur l'Iran. Je cite « Géopolitique de l'Iran »,« Iran, nouvelles identités d'une république » ou encore « L'Iran au XXe siècle entre nationalisme, islam et mondialisation ». Peut-être première question ce soir aux spécialistes que vous êtes. Est-ce que vous avez été surpris par ce qui s'est passé et vous pensez... à qui ce soir? Peut-être d'abord aux Iraniens, non?
Oui, j'ai une pensée pour les Iraniens. Ils méritent le respect. Et aujourd'hui, les Israéliens, les royalistes et les États-Unis veulent apporter la liberté à la démocratie à coups de bombe. Et en faisant cela, peut-être ils ne respectent pas les Iraniens. Et peut-être ils ne valent pas mieux que ceux qui ont massacré les Iraniens en janvier dernier.
En même temps, vous savez que beaucoup d'Iraniens attendaient et ont fêté et la mort de l'ayatollah et certains l'intervention militaire. Oui.
Tout à fait, parce qu'ils étaient prêts à soutenir le diable pour se trouver dans la page et trouver autre chose. C'est un signe de désespoir. Mais on sait aussi qu'en Iran, beaucoup de gens pensent qu'il faut trouver en soi, à l'intérieur du pays, les solutions du changement.
Comment est-ce que vous analysez, Bernard Ourkad, comment vous analysez ce qui s'est passé depuis en gros 36 heures?
Mais je me rends compte que les États-Unis ont suivi la politique israélienne et que la politique de négociation était en cours, qui était en train de se faire et peut-être de se conclure, a été négligée complètement. Dans nos médias, on ne voyait que les porte-avions, l'armada et toute la politique de sanctions, de guerre qui allait faire plier l'Iran dans la négociation. Et on n'analysait pas du tout les propositions iraniennes, les blocages qu'il y avait à l'intérieur du pays, pour avoir telle solution ou telle autre.
Qui faisait blocage?
On regardait uniquement la guerre.
Qui faisait blocage? Quel était le point
blocage,
de blocage?
Il était un peu chez nous aussi. On ne voyait que la guerre parce qu'elle était la seule solution. Et on était peut-être aussi intoxiqué par l'idée que, comme le font les royalistes, avec le drapeau israélien, on va réussir à porter la démocratie en Iran. C'est donc une situation très surprenante et qui, à mon avis, est contraire à l'histoire de l'Iran.
Mais pour se faire l'avocat du diable, on sait aussi que la diplomatie, les Iraniens n'en voulaient pas. Ils voulaient continuer sur un certain nombre de registres, l'enrichissement nucléaire, d'uranium dont ils n'avaient pas besoin pour des raisons civiles. Ils manipulaient les négociations. Ça fait quand même des années, des dizaines d'années que ça dure. Et il n'y avait pas de solution diplomatique non plus.
il y avait une solution diplomatique. En 2015, les Iraniens ont accepté un accord sur le nucléaire et qui devait permettre la levée des sanctions économiques et faire que les États-Unis, notamment les Européens, pouvaient revenir en Iran et développer le pays et surtout avoir une ouverture internationale tout à fait convenable. Et aujourd'hui, il faut bien voir que l'Iran, République islamique, a été vaincu. Ils sont dans une impasse totale et en ont conscience. Ils ont été vaincus sur le plan idéologique. Les jeunes femmes ont vaincu les mollahs avec le voile islamique. Les gardiens de la révolution ont été vaincus puisque le Hezbollah et leur allié Bachar el-Assad sont tombés. Et donc, la République islamique, avec la crise économique, n'avait pas le choix. Elle devait impérativement négocier avec les États-Unis.
Quel était le dernier, le point de blocage? Est-ce que c'était le guide, finalement?
Oui, il est incontestable que le guide était un des blocages symboliques en même temps, à bas le dictateur. Et il symbolise effectivement toute la répression et tout le système de l'islam politique qui a montré son échec en Iran. Et donc, sa disparition est effectivement un élément qui va permettre de débloquer un peu le système. Mais nous ne faisons pas d'illusions. Couper la tête de la pieuvre ne coupe pas les tentacules. Et donc, finalement...
Enfin, en même temps, si on coupe la tête de la pieuvre, il n'y a plus de tentacules, mais sans vouloir reprendre votre métaphore.
Prenons plutôt le cas du réseau.
C'est un réseau. Du réseau, voilà. Du rhizome, même, pour parler comme Deleuze.
Exactement. Et donc, le système se continue parce que c'est un réseau très puissant. Et donc, ce que je crains à court terme, c'est notamment que les plus radicaux prennent le pouvoir. Dans le cas d'une guerre, on doit réagir. Le nationalisme iranien peut se transformer en blocage. Cela dit, la mort de Khamenei va introduire des changements très politiques parce qu'à l'intérieur du système, et je regarde ça depuis plusieurs semaines, ce ne sont pas des fissures, ce sont des fractures, des divisions fondamentales qui sont mises en place. Et les massacres de janvier ont été un traumatisme qui font que, au même à l'intérieur du régime, il y a des gens qui disent « ce n'était pas un crime simplement, c'est aussi une faute politique ».
Bernard Rocade, est-ce que vous pensez que les Américains et les Israéliens sont alignés complètement sur cette offensive?
Non, je pense que Netanyahou et Trump ne sont pas sur la même ligne.
Expliquez-nous pourquoi.
Mais je pense que pour Israël, l'important, c'est que l'Iran ne soit pas un pays puissant. Si un gouvernement démocratique était en Iran, ce serait pour Israël un danger, entre guillemets. Parce que ce serait une puissance régionale capable de contester son hégémonie militaire, son hégémonie politique et son unique point de relais avec les États-Unis, avec les Occidentaux. Si l'Iran était donc puissant, Israël n'en veut pas. Ils veulent donc le chaos et peu importe qu'il y ait un régime ou un autre, c'est pas la priorité. Alors que Trump, lui, il constate que l'Iran est un pays de 92 millions d'habitants. Il y a beaucoup de gens instruits. C'est un vrai système politique, un vrai système étatique qui marche. Il y a du pétrole et du gaz aussi. Et donc, on peut faire un deal avec l'Iran, et surtout pour éviter que l'Iran ne tombe complètement dans les mains de la Chine. Et il s'agit de remettre la main un peu sur l'Iran pour être à nouveau présent dans la région.